Bonjour, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Et je souhaite à Pierre Girardet un joyeux anniversaire. Il fête aujourd'hui son 90e anniversaire. Joyeuse Pâques, malgré qu'il n'y a pas un seul lapin en chocolat dans cette salle. C'est pas normal. Il y en a un ? Ah, il y en a un. Mais joyeuse Pâques, parce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et ça, c'est un vrai sujet de joie, indépendamment des lapins en chocolat, indépendamment du temps moche, indépendamment de la dureté de la vie et de la dureté du monde. Au matin de Pâques, ce matin, la pierre est roulée. Ce matin, au lever du soleil, le tombeau est vide. Quand le jour naissait ce matin, la puissance créatrice de Dieu a mis en échec le sombre pouvoir de la mort. Elle n'a pas eu le dernier mot. Et c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui, une bonne nouvelle pour maintenant. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Sur nos morts et sur nos échecs, sur nos faillites et sur notre mort, nous pouvons demander que brille la lumière de la résurrection. Et parce que Jésus-Christ a été relevé d'entre les morts, je vous invite à vous lever. Le Seigneur est réellement ressuscité.
Thank you. Le dimanche matin, Marie de Magdala part vers la tombe. La pierre est roulée, le tombeau est vide. Elle court avertir Pierre et Jean. Tous deux courent et entrent dans le tombeau. Marie reste à l'écart, à l'extérieur, seule. C'est le vide, l'absence. Jésus est mort et on lui a même enlevé son corps. Elle pleure. Tout en pleurant, elle se penche dans le tombeau et elle voit deux anges habillés de blanc, assis là où était Jésus. Ils lui demandent, « Marie, pourquoi pleures-tu ? On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Et Jésus vient. Elle se retourne. Et elle voit Jésus qui est là, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande, « Pourquoi est-ce que tu pleures? Qui cherches-tu ? » Marie croit que c'est le jardinier, alors elle dit, « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle le reconnaît et lui dit en hébreu, « Rabouni, cela veut dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore montée vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père. Il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu. Il est aussi votre Dieu. » Alors, Marie de Magdala va annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Elle leur raconte ce qu'elle a dit. Quand Marie entend son nom, quelque chose se passe en elle comme un déclic. Au plus profond de sa nuit, une parole neuve et claire la rejointe. Comme une conviction, une évidence, c'est Jésus. La fin, elle était partie vers un tombeau, devient un commencement. La vie lui ouvre un demain. Elle connaîtra encore autrement la présence de Jésus dans sa vie. Elle ne pleure plus. Elle va vers les autres, vers les vivants. Nous chantons Hosanna. Dans Jean, Jésus a dit, je suis, oui, vous pouvez vous asseoir, même si je ne veux pas être longue. Dans Jean, Jésus a dit, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour nous emmener vers la vie, pour nous emmener vers la vérité, pour nous emmener vers la lumière, Jésus ne nous propose pas une doctrine, il nous propose sa personne, lui-même. Donc, être chrétien, ce n'est pas adhérer à une doctrine, à un code de conduite, à une théologie, à un credo. C'est entrer en relation, c'est nouer une relation avec quelqu'un, avec Jésus. Nous chantons « Tu es vie ». Pâques, ce n'est pas seulement la mort vaincue, c'est aussi la promesse de la présence toujours possible de Jésus dans nos vies. Et je me demande si chaque fois que nous retrouvons la force de vivre, on ne pourrait pas dire, comme Paul qui a cité tous ceux qui ont rencontré Jésus après sa résurrection et qui se cite lui-même, il dit « Après tout cela, il m'est apparu à moi aussi ». Nous-mêmes, nous ne pourrions pas dire chaque fois que nous retrouvons la force de vivre que Jésus nous est apparu. Louons et adorons notre Dieu.
Oh, mademoiselle, regarde. Viens, viens voir. Regarde, j'ai amené quelque chose. Ouvre ta main. Qu'est-ce que c'est ?
Des graines.
Elles sont comment ?
Petites.
Est-ce qu'elles sont brillantes ?
Un petit peu.
Un petit peu brillantes, tu trouves ? Ouais, elles ne sont pas très très brillantes, hein. Elles sont vraiment minuscules. On ne les voit toujours pas à l'écran, mais... Elles sont minuscules. Est-ce qu'elles ont de la couleur ?
Elles sont marron.
Ouais. Oui, c'est vrai. Elles sont marron, grises, même un petit peu. Hein. Un petit peu grises. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces graines ?
On doit les planter.
Ouais. Alors, regarde, j'ai amené un pot. Alors, vas-y, tu les mets dedans. Voilà, t'appuies avec le doigt. Voilà, ouais, il y en a déjà beaucoup, hein. Je crois que tu peux toutes les mettre, là. Tu peux les faire glisser de ta main dans le petit pot. Voilà, on appuie un petit peu. On les a mises dans la terre, et qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont disparaître et elles vont...
Grandir, elles vont faire des plantes.
Elles vont faire des plantes. Elles vont... Parce que les graines, elles ne vont pas venir plus grosses, t'es d'accord ?
Non.
Elles vont faire autre chose.
Elles vont grandir.
Ouais. Et tu sais ce qu'elles vont donner ? Tu vois, j'avais choisi des graines de primevère. C'est pas très habituel, hein, les graines de primevère. Mais c'était un sachet de graines de primevère. Et voilà les plantes qu'elles vont donner, qui, elles, sont grandes. Et puis, est-ce qu'elles ont de la couleur ?
Beaucoup.
Beaucoup, hein. Il y a combien de couleurs ?
Six.
Six ? Elles sont toutes différentes.
Oui.
Elles sont toutes différentes. La Bible, elle utilise exactement cette image pour parler de la résurrection. Parce que ce mot ressuscité, résurrection, c'est un mot qui est un peu compliqué. Et puis même nous, les adultes, on comprend pas toujours très bien de quoi il s'agit. Mais on trouve exactement cette idée dans la Bible, dans une lettre que Paul a écrite à une église, l'église de Corinthe. Voilà. Et il dit, mais réfléchis donc, quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord mourir avant de devenir une plante. Et qu'est-ce que tu sèmes ? Tu ne sèmes pas la plante qui va pousser. On n'a pas semé des primevères. On n'a pas semé des plantes, on a semé des graines. Et ensuite, Dieu donne à cette graine le corps qu'il veut. Quand les morts se relèveront, ce sera la même chose. Et je vous invite à chanter qu'est-ce que c'est ? Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.
Philippe, pour sa méditation de ce matin, a choisi plusieurs textes bibliques. Le premier est dans Jean 11, les versets 21, 26 et 37. Il y a un drame dans la famille des amis de Jésus, Lazare, Marthe et Marie. Lazare est tombé gravement malade. Jésus a tardé et Lazare est mort. À son arrivée, Marthe interpelle Jésus. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marie, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vie à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?
Les deux lectures suivantes sont dans l'évangile de Matthieu, tout d'abord au chapitre 27, versets 50 et suivants. C'est le moment de la mort de Jésus-Christ. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu, qui étaient morts, ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et ils dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Un peu plus loin, au chapitre 28, l'annonce de la résurrection de Jésus. L'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus. » Celui qui a été crucifié, il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était caché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts, et voici, il vous précède en Galilée.
Dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 18. Ça parle de notre résurrection à venir. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Et finalement, dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 16 à 19, « Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes.
Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous nous remettons tous entre tes mains afin que nous soyons réceptifs à ta parole, à tes sentiments envers nous, au trésor que tu voudrais nous donner aujourd'hui, à cette parole forte, porteuse de vie, qui nous aidera, qui nous portera en avant. Nous te remettons Philippe, nous te remettons aussi toutes les personnes qui ne sont pas avec nous, afin qu'elles aussi connaissent quelque chose de ta résurrection. Amen.
Bonjour, chers amis. Cette magnifique parabole des petits frimes verts illustrés nous introduit fort bien dans le thème du jour. Vous avez entendu ces lectures qui étaient un petit peu dans tous les sens, mais qui parlaient du même sujet, qui sont un peu comme un puzzle dont on va chercher l'image globale. Et vous connaissez cette coutume des chrétiens orientaux disant, au lieu de se saluer, « Bonjour, bonjour, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. » Salutation de Pâques. Mais dire avec foi, comme l'ont fait les disciples d'Emmaüs, « Le Seigneur est vraiment ressuscité », c'est proclamer la dimension capitale de la foi chrétienne, car elle est associée à l'espérance de notre propre résurrection. Pourtant, cela nécessite quelques explications. D'abord, lorsque nous parlons de résurrection, nous sommes obligés d'associer, de lui associer ce qui la justifie, c'est-à-dire la mort. Sans la mort, pas de résurrection. Toutefois, l'époque dans laquelle nous vivons influence, pour ne pas dire contamine, cette glorieuse proclamation par une tendance à vouloir maîtriser la vie et la mort. Par exemple, les questions du droit à donner la vie ou à ne pas donner la vie, ou bien le droit à mettre un terme volontaire à la vie ou pas, font que finalement, la qualité de vie prend le pas sur cette question fondamentale, est-ce que la vie s'arrête un jour ou non ? À l'évidence, si on se limite au pur aspect biologique, notre corps, la réponse est oui, la vie de notre corps biologique s'arrête un jour. On peut l'affirmer, on peut le constater. Et la loi nous impose de le faire attester médicalement par un constat de décès. C'est une obligation. Mais si l'on parle de la dimension non biologique de notre être, la question se pose autrement. Et c'est pourquoi je vous propose une petite réflexion autour de la question de la ou des résurrections dans la préoccupation d'apporter un peu de lumière de la parole dans nos pensées, car les jours sont mauvais et la confusion nous guette toujours. Nous devons, pour cela, sans relâche, chercher à clarifier le contenu de notre foi et le contenu de notre espérance. Avons-nous une vie ou plusieurs ? Je ne sais pas si vous êtes nombreux à jouer avec des jeux vidéo, denrées très prisées chez les jeunes. En ce qui me concerne, et par une grâce toute spéciale de Dieu, demandez à mon épouse qui pourra vous le confirmer, je ne suis pas une personne particulièrement dépendante du jeu en général, que ce soit les cartes, que ce soit les dés, que ce soit les jeux de lettres ou que ce soit les vidéos. J'ai quand même fait l'effort pour notre matinée d'apprendre que dans certains jeux vidéo, ces fameux jeux où l'activité essentielle consiste à s'entretuer, ce sont les plus vendus, eh bien, on possède plusieurs vies, en fait. Et il paraît qu'on peut se faire, en fait, remplacer, que notre personne d'acteur dans le jeu peut se faire remplacer par des avatars, les avatars étant des représentants de notre personne. Et chacun de ces avatars est, en fait, une chance de se perfectionner avant la fin de la partie. On peut être donc proprement flingué et repartir avec une vie en moins au compteur. Comme une sorte de joker, comme une sorte de procuration au niveau de l'existence. Remarquons en passant qu'à part la violence extrême de certains de ces jeux, la notion d'avoir plusieurs vies imprègne quelque peu notre société, notamment depuis l'émergence des spiritualités orientales et des disciplines comme le yoga ou diverses formes de méditation transcendantale qui préconisent l'auto-perfectionnement non seulement par le biais d'exercices, mais aussi par des réincarnations successives dans des êtres divers, pas forcément humains. Dans ces formes de spiritualité, la vie est décrite comme cyclique, périodique, sa finalité consistant à sortir un jour de cette succession de perfectionnement, la roue du karma, action bonne ou mauvaise qui détermine le destin, pour accéder enfin à l'état divin. Je dis bien à l'état divin. En somme, ces spiritualités constituent le chemin de l'auto-divinisation. Or, cette imprégnation occidentale, moderne, des spiritualités orientales s'observe chez nous par le nombre croissant d'adeptes de la méditation, mais aussi de manière plus populaire et superficielle par des expressions du genre « Oh, dans une autre vie, je devais être ceci ou cela, ou je serai ceci ou cela. » On l'entend assez fréquemment. Bien entendu, notre point de vue chrétien pourrait nous tenter de rétorquer par un verset biblique, en l'occurrence Hébreux 9, 27, qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Donc, de citer, de rétorquer à toute cette problématique des réincarnations et de la vie cyclique par ce verset serait une manière de clore la discussion, puisque pour nous chrétiens, la vie n'est pas cyclique et nous l'espérons suivie d'une résurrection à venir. Mais cette position un peu caricaturale oublie une partie de la Bible et notamment de l'Évangile, qui donne quelques nuances. La première nuance, c'est qu'il y a des exceptions à ce principe énoncé comme quoi il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Certains sont morts plusieurs fois, en l'occurrence au moins deux fois, sur le plan biologique. L'exemple le plus troublant est celui de ces hommes nombreux, de nombreux morts, sont sortis des tombeaux lors de la mort de Jésus sur la croix et se sont présentés après la résurrection dans la ville de Jérusalem où ils ont été vus. Bonjour l'ambiance. Imaginons des morts sortant d'un cimetière d'un de nos villages proches et entrant dans ce village. Quelques jours après. Et tout cela sans un appel particulier, une cérémonie particulière, il y a eu un événement relativement discret, mais un signe stupéfiant. On ne lit pas très souvent ce texte, mais on en demeure stupéfait. Et puis il y a eu Lazare, l'ami de Jésus, que ce dernier a appelé hors de la tombe où il se décomposait depuis 4 jours, et puis le fils de la veuve de Sunem, ressuscité par le ministère du prophète Élisée. Ces fêtes nous imposent de nous questionner sur la différence entre la résurrection de Jésus, que nous commémorons aujourd'hui, par rapport à la résurrection de ces précurseurs humains qui ont eu le privilège exceptionnel de ressusciter dans leur corps biologique sur cette terre, vivant 2 fois, mort 2 fois. La résurrection du Christ est liée de manière impérative à la foi, dans le sens où personne n'a vu la résurrection elle-même. Paul Robert Chanson nous relatait le 13 mars dernier que aucun témoin n'a vu le réveil du Christ émergeant de la mort. Il est apparu ressuscité, ce fut un constat d'abord des femmes, puis de Pierre et Jean, puis des autres disciples, et on peut imaginer que l'évangéliste Jean, relatant son arrivée en courant avec l'apôtre Pierre au tombeau de Jésus et relatant « il vit et il crut », signifie qu'il a constaté avec stupéfaction que le linceul qui enveloppait le corps et qui souvent était cousu à gros points, mais cousu sur le corps du défunt, était vide, n'était pas décousu, n'était pas déchiré, et que par conséquent, le corps de Jésus en avait été extrait comme au travers du tissu. Cette vision stupéfiante, Jean l'interprète comme relevant bien de la résurrection du Christ. Remarquons qu'il en avait déjà reçu l'enseignement par Jésus lui-même, de son vivant, de sa compagnie avec eux. Avant sa mise en croix, il aurait pu le savoir, mais il ne l'avait pas réalisé vraiment. Maintenant, il y a une différence essentielle entre la résurrection du Christ et la résurrection de ces humains qui ont bénéficié de cette exceptionnelle expérience. Hormis la raison essentielle de ces diverses résurrections, il y a la nature des corps ressuscités qui est une question. Car il est évident que les corps ressuscités de Lazare, des morts qui sont sortis de leur tombeau, du fils de la veuve de Sunem, ils sont sortis de leur tombe, ils se sont réveillés de la mort, mais ils sont morts une deuxième fois. Puisqu'il y a 2000 ans, donc ils seraient encore parmi nous, enfin, il y a quelque chose qui ne joue pas, ils sont morts une seconde fois. La nature de leur corps ressuscité n'est pas la même que la nature du Christ ressuscité. La Bible précise bien que Jésus devait revêtir l'incorruptibilité, une transmutation corporelle qui lui donnait des propriétés, si j'ose dire, des propriétés ou des facultés extraordinaires. Jésus parlait et mangeait avec ses disciples après sa résurrection. Il portait encore les cicatrices de son supplice après la résurrection. Il est entré dans une maison dont les portes étaient soigneusement verrouillées sans aucune effraction. Il s'est présenté soudainement aux disciples sur la route d'Emmaüs et aussi à ses disciples. Comme le mentionne le texte, il se tint au milieu d'eux. Cet état extraordinaire est néanmoins celui d'un corps reconnaissable, et non pas d'un pur esprit ou d'un fantôme. Le corps de Jésus est un corps qui permet de le reconnaître d'une certaine manière. À Thomas, il a dit « Regarde mes mains, les plaies ». Le corps ressuscité de Jésus est différent de celui de ceux qui ont bénéficié des prémices de la résurrection, car ces derniers n'ont pas reçu, comme Jésus, un corps incorruptible lors de leur résurrection biologique. La mort n'a pas retenu Jésus. Jésus a rendu la mort réversible. Il a manifesté sa souveraineté sur la mort elle-même et il a démontré, en fait, qu'on ne tue pas Dieu. Les humains cherchent aussi à rendre la mort réversible, à coup de science, à coup de congélation, de surgélation, etc. Ils ne sont pas prêts d'y parvenir. Nous affirmons, nous, chrétiens, assez volontiers, et c'est tout à fait pertinent, que lorsque nous avons mis notre foi en Jésus-Christ comme source du pardon de nos péchés, nous sommes passés de la mort à la vie éternelle. La notion de vie éternelle implique une vie sans interruption. Alors, il semble donc clair que notre mort biologique sera un changement d'état, mais pas un anéantissement. Excusez-moi pour l'expression que je vais employer, mais on pourrait dire qu'au séjour des morts, nous serons des morts vivants. Des morts biologiques, mais bien vivants spirituellement. On ne reviendra certes pas sur la terre avant la glorieuse résurrection collective promise, mais dans l'intervalle, on n'est pas anéanti. Ce qui nous trouble, c'est notre tendance à confondre le corps biologique avec le corps spirituel. Le premier, le corps biologique, on le connaît tous, on vit avec. Le second, on va le recevoir, soit lors de notre résurrection à venir, soit lors de l'avènement de Jésus-Christ. Je résume quatre dimensions de la résurrection. D'abord, la résurrection des personnes décédées, rappelées à la vie biologique, comme signe exceptionnel de la présence de Dieu parmi nous. Lazare, les morts sortis des tombeaux le vendredi saint. Deuxièmement, la résurrection du Christ, premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire ressuscité, le premier ressuscité avec le corps incorruptible, comme un prototype de notre résurrection à venir. Ensuite, en troisième point, la résurrection collective, appelée première résurrection dans l'Apocalypse, celle de l'ensemble que Dieu a déclaré juste, quelle que soit l'époque où ils ont vécu. Ces déclarés justes recevront un corps spirituel incorruptible, semblable à celui du Christ, et régneront avec lui. Reste une dernière facette de ce puzzle des résurrections, une résurrection qui ne porte pas son nom. Elle concerne l'ensemble de ceux qui n'auront pas été déclarés justes par Dieu lors du jugement dernier et qui seront par conséquent exclus du royaume de Dieu pour aller dans un lieu d'amer regret. Leur statut est appelé la seconde mort. Bien que, là encore, il demeure existant. On peut en déduire que la vraie vie, c'est la proximité de Dieu et de son Christ. L'élément déclencheur, qui va engendrer la première résurrection collective, c'est cet extraordinaire retour du Christ. Un retour d'un Christ non plus voilé sous le voile de l'humilité, mais environné d'une gloire totale qui illuminera le ciel et que tout œil verra. Est-ce que nous le verrons? Imaginons que oui, imaginons que ce soit le cas, imaginons qu'il soit à la porte, que ce soit imminent, même pour notre ami Pierre qui en a 90 ans aujourd'hui. Imaginons qu'il revienne sous peu de jours. Pouvons-nous parler de résurrection pour nous qui serons vivants, qui serons dans notre corps vivant? Est-ce qu'on aura une résurrection à ce moment-là? seront encore dans notre corps biologique, qui marche encore. Alors, c'est un de nos textes qui le dit, l'apôtre Paul lui-même disait, mais nous les vivants qui serons restés, il pensait déjà que le Christ allait revenir d'un jour à l'autre, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les morts ressuscités à la rencontre du Christ, dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous pouvons donc imaginer que si l'hypothèse est vraie et qu'à notre tour nous serons encore vivants ce jour-là, eh bien nous serons comme aspirés à sa rencontre. Et étant donné que nous ne serons pas morts biologiquement, nous bénéficierons de cette transmutation, de ce changement de corps pour revêtir un corps incorruptible, la même nature que celui du Christ ressuscité, un nouveau corps. Est-ce que cela ressemble à de la science-fiction? Eh bien, tant mieux. Je me dis tant mieux. Parce que la logique de Dieu n'est pas notre logique et de grâce n'inversons pas les rôles. L'aspect merveilleux est dans ce que Dieu fait et non dans ce que relève notre logique et nos jeux vidéo. Alors, avons-nous plusieurs vies? Non. On a une vie, mais sous deux états successifs. Le premier dans un corps biologique, on connaît, de brève durée. Le second dans un nouveau corps, semblable à celui du Christ ressuscité. Considérons cette grâce, ce privilège extraordinaire dont nous jouissons et qui consiste à connaître la source de cet avenir glorieux, radieux de la vie éternelle. Le crucifié de Golgotha, ressuscité, est le premier-né de ce nouveau monde des ressuscités, espérance glorieuse de notre propre résurrection. J'exhorte ceux qui n'auraient pas encore décidé de croire à cette source unique de la vie éternelle, de le faire au plus vite, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure de son avènement. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous propose de chanter ce chant glorieux de la résurrection. À toi la gloire.
nous voilà autour de la table du Seigneur. Nous avons eu la chance en Église aussi de vivre le chemin de la Passion qui était exposé au centre paroissial œcuménique. Et lors de cette exposition, nous avons traversé la pièce où Jésus et ses disciples prennent le repas de la Pâque. Nous avons ensuite traversé le tribunal en passant entre Caïphe et Pilate. Nous avons médité devant le Christ crucifié et découvert ensuite le tombeau vide, où reposent les bandelettes et le linge qui enveloppait la tête de Jésus. Le linge est plié à part. Le parcours nous conduit ensuite dans un couloir qui va en s'élargissant vers le monde d'aujourd'hui. Et sur ces parois blanches courent des enfants, et il est écrit « Dieu rend libre ». Le repas de la Pâque que partageaient Jésus et ses disciples rappelait la sortie d'Égypte, la sortie du pays de servitude. Et il rappelait le prix à payer pour sortir de l'esclavage. La liberté, le salut, ça ne va pas de soi. La liberté, le salut, la vie, ça a un prix. Seule la mort se distribue pour rien. La liberté, le salut, la vie sont le fruit d'un combat, le fruit d'une lutte. Nous sommes maintenant invités à la table du Seigneur pour partager le pain et le vin. Nous rappelons ici que Jésus-Christ, par son sang offert, par son sang versé, par son corps offert, que Jésus-Christ, en donnant sa vie, a payé le prix pour notre salut, pour notre liberté. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu la mort. Et alors notre vie prend son sens véritable. Maintenant, aujourd'hui et pour l'éternité, nous sommes filles et fils dans le regard de Dieu notre Père.
Quand l'heure est venue, Jésus s'installe pour le repas avec les apôtres. Il leur dit « J'ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. » Ensuite, Jésus prend du pain. Il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en disant « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous.
Prions. Seigneur, nous reconnaissons dans ces signes du pain et du vin, ces signes de ton corps et de ton sang, tu as consenti à ce sacrifice perpétuel, à donner ta vie pour nous, pour tous les temps. Nous sommes privilégiés, nous reconnaissons que c'est une source éternelle d'espérance et de joie et nous voulons t'en remercier. Amen.
Alors, vous trouverez au milieu des plateaux des gobelets roses qui sont avec du jus de raisin. J'ai ici des coupes. Si vous désirez participer à la coupe, faites-moi signe. Nous vous proposons, pendant la distribution de la Sainte Cène, que vous puissiez vous exprimer devant Dieu dans un temps de prière libre.
Seigneur, merci de nous avoir rappelé ce matin cet événement extraordinaire, cet événement de la résurrection. Merci Seigneur de pouvoir y adhérer de tout notre cœur par la foi. Et nous te demandons simplement, Seigneur, renouvelle notre foi jour après jour face à toutes les contradictions dont nous sommes témoins aujourd'hui. Nous te demandons au nom du Christ. Thank you.
Amen. C'est vrai, Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que cette communion, c'est une vie partagée avec toi par ton esprit. Veuille être tous les jours notre conseil, veuille être notre lumière, notre espérance. Amen.
Le salut est offert, vous ne pouvez pas l'acheter. Mais on passe quand même à l'offrande. On passe à l'offrande parce que c'est une manière de rendre gloire à Dieu et c'est une manière aussi de permettre que la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ soit largement diffusée autour de nous. Voilà, pendant la collecte, je vous invite à chanter le numéro 261. Dans les chants de victoire, aussi nombreux que le sable, nombreux comme le sable des plages. Un chant qui nous a été demandé par Pierre et qui est tout à fait dans l'esprit de ce jour de résurrection.
Thank you.
Seigneur notre Dieu, tu es généreux. Tu nous as promis la vie en abondance. Tu donnes, tu donnes, tu te donnes encore et encore. Ce matin, nous avons donné une partie de nos biens, que ce soit dans cette offrande ou sur le CCP. Reçois-le comme un signe de reconnaissance de tout ce que tu nous as donné. Et qu'il soit un signe de bénédiction pour ton Église, pour tous ceux qui en ont besoin, qui en bénéficient, nous envoyer, notre pasteur, notre stagiaire et nous-mêmes. Amen.
Voilà les annonces du jour. Ouais, encore, un applaudissement. Ah, on t'a pas loupé, hein. Oui, le annonce suivante, le cathet est en camp sur bateau jusqu'à mardi, dans le beau sud de la France. On voit que le bateau, mais je ne sais pas s'ils vont tenir tous là-dedans. On espère que le vent souffle bien. C'est-à-dire que c'est un bon vent qui souffle. Ouais. Samedi 29 mars, à 20h15, la réunion de prière de l'église. Mardi, pardon, excusez-moi. C'est écrit juste, c'est moi qui dis faux. Mardi 29 mars à 20h15, la réunion de prière. Samedi 2 avril, le groupe Free Time, hein, pour les jeunes adultes, accueille un pèlerin anonyme apparemment, qui fait une présentation sur la route avec Dieu. 18h, repas canadien, 20h, début de la soirée. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser à Benjamin. Dimanche prochain, repas canadien, il est bien. Vous voyez, il y aura suffisamment. Donc, apparemment, nous accueillons l'église chinoise, je vois. J'étais pas au courant. C'est un repas canadien ou un repas chinois? Non, dimanche prochain, repas canadien. Et puis, le 10 avril, au Forum Mérin, théâtre au chant, dans le cadre des célébrations autour du 40e du CEPOM, une pièce qui s'adresse plutôt aux ados autour de la thématique du harcèlement via les médias sociaux et ce genre de choses. C'est une compagnie, ce théâtre au chant, qui est composé de jeunes, donc ils savent de quoi ils parlent. Et c'est une mise en scène d'Anushka Schönwer, Somaruga. Voilà. Donc c'est recommandable et recommandé.
Pour conclure notre culte et pour être en lien avec les chrétiens du monde entier aujourd'hui, je vous propose de chanter le Notre Père. 590.
pour la bénédiction de la part du Seigneur. Selon l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 13, « Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute sa joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Allons en paix. Bonne journée.